Nous sommes le lundi 27 novembre 2023. Ils sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse en union avec nous sur Canal FM, sur Radio Lumière en Ero, sur Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, sur Radio Centrale FM à Sokoré, sur Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisia d'Apaon, pour dire que cette émission est écoutée dans toutes les villes et dans tous les hameaux du Togo. Merci à la chaîne des radios partenaires. C'est pas fini. Le Club La Presse est également écouté par le monde entier grâce aux radios partenaires numériques et Bonne Radio, Radio Le Bénin, l'application Canal FM et même la chaîne YouTube. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Vitor Bekoku, Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. Aujourd'hui, nous faisons retour sur cette confrontation inédite entre des ministres et des membres de la Cour des comptes. C'est toujours sur le rapport d'audit de la gestion 2020 du fonds Covid-19. Nous allons revenir également sur le fichier électoral qui suscite tellement de débats. Et l'OIF dit sa part de vérité que nous allons commenter, tout comme la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui requiert l'apport de tous, l'État, les universitaires, mais également les bonnes volontés. Et puis la 18e foire internationale de Lomé 2023 qui est dans sa deuxième ligne droite. Voilà le menu dont nous allons discuter avec les confrères déjà et autres personnes ressources déjà au studio. Mais comme c'est une tradition, nous lançons la pensée du jour quand le sage nous dit que il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. Mais si tu n'en trouves pas, deviens-en une toi-même. Encore une fois, il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. Mais si d'aventure tu n'en trouves pas, eh bien, deviens-en une toi-même. Jacques Jacouti, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Eh bien, je t'apprends qu'il y a encore beaucoup de personnes, de bonnes personnes dans ce monde, même peut-être même dans ce studio. Mais si tu n'en trouves pas, eh bien, toi-même, tu vas devenir cette bonne personne.
Comme quelqu'un le dirait, connais-toi toi-même.
Merci beaucoup. Harry Miaou Tanyaou, bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Je souhaite agréable semaine à tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment.
Merci. Troisième confrère, Uriel Kakbala et Niang de Mega Info, bonjour.
Bonjour Sasse Gao Innocent, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le Togo.
Merci, nous attendons un quatrième confrère, mais notre personne ressource est déjà là. Et comme son temps est compté, pour ne pas avoir la surprise qu'il est appelé pour, par une urgence, nous commençons avec lui. Et lui, c'est Alexandre Elombe de Souza, le directeur du Centre Togolais d'Exposition et Foi, que nous appelons communément directeur de la Foi. Monsieur le DG, bonjour.
Bonjour Sass, et je dis bonjour à tous vos auditeurs et puis à tous les invités ici présents.
Notamment à ce nombreux public qui est sur le site de la Foi, aussi bien les exposants que les visiteurs, les commerçants et autres.
À qui je rends vraiment hommage. Je les remercie beaucoup pour leur fidélité à la Foire internationale de Lomé et puis leur engagement pour la réussite de cette 18e édition.
Merci. Eh bien, c'est parti avec vous. Revue de presse sur cette 18e Foire internationale de Lomé qui est déjà dans sa deuxième ligne droite. Le confrère Mega Info nous le rappelle. La 18e foire est lancée pour une croissance des échanges commerciaux. Le thème, comme le journal nous le rappelle, c'est « Connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux ». La foire a ouvert ses portes le 22 novembre, mais l'ouverture officielle, c'était par Madame la Première ministre en personne le 23 novembre dernier. La foire qui annonce plusieurs innovations. Nous allons en parler avec le directeur. Et la semaine passée, nous avions un invité de la Société des Postes qui a annoncé que cette année 2023, la Poste togolaise fait un retour à la fois avec beaucoup d'innovations. Autre société qui ne se laisse pas compter, c'est la société, c'est Nouvelle Opinion qui nous en parle. Oui, le groupe Togocom qui est présent à la fois et qui présente ses services et ses offres au public. Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, je le disais, la foire est déjà à sa deuxième semaine. On annonce avec raison un grand public le week-end dernier. Est-ce à dire que la 18e foire de Lomé a déjà atteint sa vitesse de croisière, monsieur le directeur?
Merci beaucoup. Et d'abord, j'observe que la foire internationale de Lomé, dans son concept, est profondément enracinée aussi bien dans le cœur des Togolais que dans le cœur des autres nations qui y participent. Et donc, nous avons la participation de plus de 20 pays cette année, de 20 pays étrangers, je veux dire, et avec plus d'une centaine d'exposants venant de ces pays-là au total. En plus de nos propres exposants nationaux. Donc, vous voyez, on est rentré totalement depuis le début de la foire. La foire a commencé le 22 novembre. Ce n'est pas à l'ouverture officielle que ça a commencé. Nous avons martelé sur les médias que la foire commence. On démarre, on fait un sprint dès le départ, parce que nous avons cette année 12 jours. Et donc, ça a réellement commencé le 22 novembre. Et oui, nous venons de faire 5 jours, nous venons de boucler le premier week-end et nous allons parler tout à l'heure de l'affluence de fréquentation.
Justement, vous avez démarré en sprint comme un certain Usain Bolt. Et puis je l'ai dit, le week-end dernier, on a noté une grande affluence. Ma question demeure, est-ce que notre foire, la 18e du genre, a déjà atteint ou s'approche de sa vitesse de croisière?
Oui. Comparé à l'année dernière, parce que nous avons des indicateurs et puis nous avons des statisticiens sur le site qui analysent, nous avons nous sommes déjà sur notre pointe, nous sommes à la vitesse de croisière, et donc tout va bien selon ce que j'observe jusqu'à
présent. Vous avez dit une vingtaine de pays qui exposent, des pays aussi divers comme l'Allemagne, les voisins immédiats, le Bénin, le Burkina Faso. Et également l'Égypte, la France, le Ghana, l'Inde, l'Iran, Israël, le Maroc, le Pakistan, le Sénégal, la Turquie et les USA. Il fallait le faire et vous le faites. Eh bien, le journal Mega Info revient sur ces innovations que vous avez introduites dans la foire cette année. Mais une question qui intéresse beaucoup le public, c'est les conditions d'accès. Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce qu'on peut accéder sur le site cette année, monsieur le directeur?
Oui, nous avons beaucoup travaillé sur d'abord la mobilité, faire en sorte que les gens accèdent assez facilement. Donc, nous avons multiplié le nombre de parkings. Auparavant, nous avions 3 parkings. Aujourd'hui, nous en avions 7. Et nous avons élargi le balisage avec le concours de certains spécialistes et puis de la commune du Golfe 2. On a élargi pour que voilà, les abords du site ne soient pas encombrés en permanence. Et donc, à certains moments, on bloque, à d'autres, on ouvre quand c'est pas des heures de pointe, etc. Tout. Mais les visiteurs peuvent aisément trouver une place et se garer sur ce site. Donc, quand on parle de conditions d'accès, vous voulez parler sûrement des tickets d'entrée.
Entre autres.
Ça aussi, c'est très important. Cette année, nous avons accentué le côté digitalisation. Nous travaillons avec 4 partenaires, disons 3 partenaires, dont le CTF. Nous avons une application pour Togo 2000 pour la vente des tickets en ligne. Et il y a 2-3 autres qui nous appuient. Gozem, il y a Miapé et puis il y a Eventish, sur lesquels des visiteurs achètent des tickets. Et avant l'ouverture de la foire, nous appliquions 20% de réduction sur l'achat de ces tickets-là. Et jusqu'à présent, il y a une plateforme qui continue, c'est-à-dire en forme de sponsoring, continue d'appliquer ces 20%. C'est Miapé qui continue d'appliquer à ceux qui achètent sur son application. Et donc, toutes ces mesures sont prises pour faciliter l'accès, qu'il n'y ait pas d'encombrement. Donc, ceux qui préachètent viennent et puis rentrent, on scanne juste le code QR et puis ils passent sans attente longue comme on a l'habitude d'observer. Et donc, les coûts des tickets, je vais vous dire, au niveau de tarification, nous avons cinq types. D'abord, nous avons des tarifs à 300 francs. Et du lundi, mardi, jeudi, 300 francs pour accéder au site. Jeudi, vendredi, nous sommes à 100. Et les samedis, dimanche, où nous organisons souvent des concerts, c'est à 1000 francs. Sans compter que les enfants ne payent pas. Les enfants de moins de 10 ans ne payent pas. Ça veut dire que je vais vous donner des chiffres de fréquentation tout à l'heure. Et vous allez voir que les enfants ne font pas partie. Et ensuite, nous avons eu même deux journées gratuites. À l'ouverture, la veille, et puis le jour de l'ouverture. Deux journées gratuites. Où il y a eu encore beaucoup de fréquentation. Et donc, pour aller à la fois, donc aller dans le même sens, en comparant justement, quand je prends la journée vendredi, le premier vendredi de l'année 2022 où la foire a ouvert, et ce vendredi de l'année 2023, nous avons fait 4 fois plus d'affluence que l'année dernière, parce que l'année dernière on était à 3058 visiteurs sur le premier vendredi. Cette année nous étions à 12900 visiteurs, donc c'est 4 fois plus de visiteurs. Le samedi, donc premier samedi, l'année dernière on était à 14000 visiteurs, cette année nous sommes à 14000 également, donc c'est égal. Et dimanche, hier, l'année dernière c'était 15700 visiteurs. Nous étions hier à 18 309 visiteurs. Alors, ces chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres qui sont uniquement basés sur les ventes de tickets. Comme je vous dis, nos statisticiens travaillent pour disons que c'est des chiffres bruts. On travaille pour donner les chiffres vraiment affinés, puisque quand un parent vient avec 3 enfants de moins de 10 ans, il paye. Mais il y a plus d'affluence sur le site que ces chiffres. C'est-à-dire qu'on pourrait doubler, voire tripler, voire quadrupler même ces chiffres-là. Mais non, on n'en est pas encore là. Je vous donne juste sur un
étiquet. L'enfant de moins de 10 ans accompagné
de leurs parents
ne paie pas d'entrée. Oui. Monsieur le directeur, vous savez que les réseaux sociaux sont une réalité vivante de la vie d'aujourd'hui. Vous avez sans doute suivi ces dernières heures certaines personnes qui s'expriment sur les réseaux et qui se plaignent que le ticket de 1000 francs serait trop élevé et que cela aurait restreint l'accès au site à à des visiteurs qui ne seraient pas allés visiter leur stand.
C'est une fausse information qui circule. Nous scrutons avec attention les réseaux sociaux et nous sommes parfaitement au courant. Donc c'est une fausse information. Ce n'est pas la première fois que la foire met des tickets à 1000 francs. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première année. Et les jours de concert, ça a toujours été comme ça. Il y a des tickets à 1000 francs parce que, effectivement, nous faisons des concerts. Quand des gens vont en concert en ville, ils payent combien? 2000 francs, 3000 francs et autres. Quand nous organisons de gros concerts avec des stars nationales, il est normal que les prix de tickets augmentent. Mais ça n'a pas empêché l'affluence. Des gens viennent. Là où il y a eu la mauvaise interprétation, c'est que les gens ont cru que c'est 1000 francs pour toute la durée de la foire. Non, nous avons des espaces à 300, nous avons des espaces à 500, même nous avons eu des espaces gratuits. Alors, la question ne se pose pas. C'est de la désinformation, en fait, finalement, sur ce qui se passe sur les médias.
Merci. Mm-hmm. Donc, vous l'avez rappelé, lundi, mardi, mercredi, l'accès est à 300 francs.
Oui.
Jeudi, vendredi, à 500 francs. Et puis, on monte la gamme à 1000 francs le samedi et le dimanche. Autre, je ne dirais pas polémique, mais souhait, c'est que certains exposants trouvent que le délai de 12 jours serait trop court. Alors, est-ce que qu'avez-vous à dire à certains de vos partenaires?
Oui, j'ai accueilli par deux fois des exposants qui sont rassemblés, même il y a une délégation d'une vingtaine de personnes qui représentaient l'ensemble des exposants du site qui sont venus nous voir pour soumettre cette doléance-là. Au début, ça avait pris une autre tournure, mais après, c'est devenu une doléance que nous avons gérée, nous les avons accueillis. Et j'ai entendu cette doléance et je leur ai promis d'y réfléchir. J'en ai parlé également à mes supérieurs, nous allons y réfléchir. En réalité, on a expliqué tout ça. Normalement, si on devait être très carré, très radical, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à la foire, ce n'est pas après être venu que la personne a appris que c'était 12 jours. Depuis le 5 juillet 2023, jour du lancement, nous avons communiqué et dit que c'est 12 jours. Et tout le monde était au courant. Et même en venant s'inscrire, en signant leur contrat, ils avaient appris que c'est 12 jours. Et donc, ce n'est pas en étant là qu'ils ont appris. Ils le savaient avant de venir. Et donc, maintenant, c'est pour ça qu'ils font une doléance. Maintenant, ils se disent, mais écoutez, faites-nous, prolongez-nous la foire. Parce que, bon, ils sentent, quand certains disent, on ne vend pas, cette année, on trouve même que, enfin, il y a beaucoup qui nous approchent, qui nous disent, ça va très bien. Et d'autres ne s'inquiètent même pas, ils savent comment la foire de Lomé fonctionne. On sait comment l'engouement et même les achats à quel moment passent. Donc voilà, nous sommes à l'écoute de toutes ces doléances et nous y travaillons.
Mais en principe, on ne devrait pas changer les règles au cours du jeu.
Oui.
Mais en même temps, il semble que dans le commerce, tout est négociable.
Ah, c'est le commerce, vous le dites. Et ce sont les commerçants, justement. Parce que hier, par exemple, comme je vous dis, une vingtaine, il y a une seule entreprise de service parmi les autres sont des commerçants purs, des restaurateurs ou des vendeurs d'articles, donc du marché. Donc, et j'ai fait remarquer à la personne du service que je ne comprends pas dans le groupe de ces commerçants directs là, parce que les commerçants directement, vous leur donnez un mois, même ils sont satisfaits. Ou même si on mettait la foire à 2 mois, 3 mois, ils seront contents. Mais cette mesure de 12 jours a ravi quand même la plupart de nos exposants, parce qu'il y a beaucoup de services, de banques, de machins, qui se disent, mais écoutez, c'est dans le bon sens, on trouvait que la foire est trop longue. En même temps, là où c'était un faux problème, c'est parce que on dit foire 3 semaines, mais en réalité, la foire n'a jamais été 3 semaines, parce que c'est quand on donne la date de démarrage que les gens commencent à s'installer en réalité. Donc, les gens perdent souvent 3 à 5 jours avant l'ouverture de la foire. Et donc, la foire se rapproche du nombre de jours que nous avions fixé cette année. Et c'était aussi c'est-à-dire une des zones, c'est-à-dire auparavant les foires c'était toujours 10 jours et les standards internationaux les foires c'est 6 jours, parce que c'est des questions de coûts également pour des participations étrangères. Quand nous voulons vraiment entrer dans des échanges commerciaux internationaux, intégrer d'autres marchés, etc., inviter des pays partenaires étrangers, si on rallonge, nous avons plusieurs fois dans la sous-région, le choix est vite fait pour un opérateur d'aller dans telle autre foire qui est plus courte que de venir au Togo où c'est plus long. Maintenant, nos chers exposants m'ont fait comprendre hier ce que j'entends, que oui, le Togo peut avoir sa spécificité de sa foire à 3 semaines, que ce n'est pas un problème, etc. On peut y travailler. Je vais y réfléchir, je vais en parler à nos autorités, à nos dirigeants, on verra si c'est possible ou pas.
Déjà, une centaine d'exposants venus d'une vingtaine de pays de tous les continents. Vous avez parlé des réformes comme la multiplication des parkings pour décongestionner les abords, également la digitalisation d'une partie des entrées pour fluidifier l'entrée au site. Monsieur le directeur, il doit y avoir certainement d'autres innovations qui rendent notre foire plus attractive.
Oui, en fait, tout se résume en l'amélioration de cette expérience client. C'est-à-dire que nous voulons faire en sorte que, à la fois, pas seulement clients, nos clients, ce sont les exposants qui sont là, mais les visiteurs également. Faire une foire agréable. Venir, quand on vient à Togo 2000, qu'on ne se sente pas étouffé, qu'on ne se sente pas dans les couloirs du grand marché, il faut fluidifier l'accès, fluidifier les visites également. Et donc, nous avons mis en place certains systèmes, certains mécanismes, nous avons même misé sur la qualité, la construction. On a parlé, par exemple, de reposoirs pour des personnes. Ça a été une question très importante hier au cours de notre réunion d'ailleurs, pour des personnes à mobilité réduite, leur accès sur le site, aller aux toilettes, se déplacer depuis l'entrée jusqu'à leur stand, etc. Tout, oui, parce qu'on interdisait l'entrée des motos qui vont les porter ou même pour ressortir. Donc, c'est ça, nous mettons des mesures en place tout de suite pour les aider, spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite ou les malvoyants, etc., qui sont également, qui font partie de nos exposants. Le problème du niveau est réglé, mais pour les autres également, ils vivent une nouvelle expérience de cette foire-là, en visitant agréablement et en ayant le temps de discuter avec les exposants. Ce que nous avons constaté, c'est que l'affluence se concentre sur le dernier week-end, c'est-à-dire on a l'habitude d'attendre la fin. Quand on dit on va fermer la foire dans 2 jours, c'est à partir de ce moment que les gens courent et le site est invivable. Et pour des raisons de sécurité, nous avons voulu décongestionner cela en étalant un peu, en faisant en sorte qu'en semaine, des gens puissent visiter et se sentir agréable, et qu'en week-end même, ça soit un peu plus réduit. Donc, ça fait partie de notre stratégie d'organisation de cette année. Autre innovation que vous trouvez sur le site, dont on en parle beaucoup sur les réseaux, dans la presse, c'est le Togo Mall, que beaucoup ont découvert pour la première fois, qui est... un supermarché typiquement 100% made in Togo, qui a eu une innovation, parce que depuis toujours, aujourd'hui nos producteurs togolais sont obligés d'aller supplier les magasins que vous connaissez d'avoir un rayon de produits togolais. Aujourd'hui, 100% de produits togolais du nord au sud, c'est-à-dire ces échantillons et des produits en vente libre sont disponibles dans ce magasin. Et ce n'est pas que pour la foire, c'est au-delà de la foire, c'est toute l'année. C'est un supermarché qui est ouvert carrément, mais qui a été lancé pendant la foire.
Merci. Alors, les heures d'ouverture, de clôture de la foire
En fonction des jours de la semaine, donc c'est de 10h pour les exposants. Bon, de 9h pour les exposants. Les exposants viennent plus tôt pour préparer. Et pour le public, c'est de 10h à 21h en semaine, du lundi au jeudi, mais à partir de vendredi jusqu'à dimanche, ça ferme à 23h. Voilà.
Merci. Eh bien, c'est Alexandre Elom de Souza, le directeur général du CETEF, avec qui nous avons revisité la 18e foire internationale de Lomé dans tous les sens. Mais je rappelle que le studio est meublé peuplé plutôt de Uriel Kakbala, Jacques Djakouti, Harry Miaou Tchanyaou et Didier Assogba qui nous a rejoint. Tant Didier, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tous les amis.
Merci. En un tour, je ne sais pas si vous avez une question ou bien un commentaire à l'endroit de notre invité.
Justement, moi je voulais revenir un peu sur l'aspect sécuritaire du site. Hier j'ai fait un tour, j'ai vu le site, surtout avec la jeunesse. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez ce qui se passe, peut-être vous étiez au bureau, vous ne savez pas au dehors là, ce qui se passait. Il faudrait vraiment que vous puissiez prendre vraiment la disposition sécuritaire par rapport à ces jeunes-là que nous avons souvent sur le site les week-ends. Ce n'était pas tellement joli à voir, mais vous savez, c'est les jeunes. Mais il faut quand même chercher un mécanisme pour pouvoir encadrer ces jeunes-là pour ne pas trop s'exposer à la joie, surtout à l'alcool. Mmh. On a vu des choses... Il n'y a pas possible. Donc, il faut vraiment y penser par rapport à la sécurité du site.
Dans le sens d'éviter, de prévenir les débordements qui pourraient se révéler préjudiciables. Vous avez noté, directeur, s'il vous plaît?
Non, je n'ai rien à dire pour l'instant. Oui.
Non, il n'y a rien à dire.
C'est Yaribou?
Non, bon, peut-être pour féliciter, encourager le DG, parce que c'est son baptême de feu. Je crois que c'est la première fois que sous sa direction... Il organise la foire avec beaucoup d'innovation. Je me dis que toutes les remarques, ça et les autres tiennent à faire, vont rentrer dans l'aspect correction pour l'avenir. Et donc, moi, je trouve, j'y étais deux fois déjà. Je crois que ça se joue très bien. Et la seule chose qui m'avait inquiété, c'est le fait que la foire ne s'est pas prolongée au congé, comme ça se fait par le passé. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, les enfants sont en pleine école et le week-end, comme il le dit, sont obligés de courir, aller là-bas. Et moi, je me disais que souvent, vous faisiez les foires qui allaient avec les congés. Et peut-être à l'avenir, je ne sais pas ce qui a motivé que ce soit rapproché plus tôt. Mais il y a la quinzaine commerciale aussi qui vient souvent en complément de la foire. Mais pour le moment, moi j'ai dit félicitations. Tout a été, à mon avis, une réussite. Et les corrections, il va toujours en avoir. Les gens toujours trouver à dire parce que rien ne peut dans le monde être à 100% parfait. Donc voilà.
Je crois que la foire, c'est toujours ça finit généralement autour de 15. Ça finit de toute façon avant le début de la quinzaine commerciale qui est souvent ici, donc ça n'a jamais une fois qu'il rentre dans les congés de Noël. Mais je ne sais pas, peut-être une doléance que le directeur note pour les futurs. Mais je crois fondamentalement que on a vu, pour ceux qui connaissent bien le site de la foire, on a vu beaucoup de réhabilitation, beaucoup d'aménagement. Le site même de la foire, je l'ai trouvé un peu je veux dire, ce n'est plus trop encore comme avant, parce que la décision cette année, c'est de ne pas faire entrer des engins comme de par le passé, on garait un peu partout. Donc aujourd'hui, il y a une facilité de circulation à la fois. Le week-end vient de passer, vous avez pu voir qu'il y avait ces bousculades qu'on notait par le passé. Donc il y a quelque chose d'innovant qui est en cours, mais les doléances que les uns les autres posent, je pense que ça permet quand même d'améliorer l'organisation d'événements dans le futur. Et donc, peut-être que le directeur peut prendre toutes ces doléances, ces sollicitations, pour voir comment est-ce qu'on huile mieux pour faire une véritable foire
à la directeur général.
Merci beaucoup pour tous ces apports. C'est vrai que c'est ma première fois, donc j'implore d'abord votre indulgence. Et puis vos avis comptent, les avis de tous comptent pour l'amélioration, parce que nous allons toujours vers la qualité, l'amélioration. Donc on a fait plusieurs réunions quand on parle de sécurité tout à l'heure avec les forces de l'ordre pour prévenir, toujours prévenir, parce que déjà les jeunes... Et nous faisons la prévention, nous allons vérifier ceux qui boivent, nous allons... Et je fais quotidiennement, je ne reste pas au bureau, je fais quotidiennement d'ailleurs plusieurs tours, et mes agents font plusieurs tours, ils sont obligés. Et donc, hier, je pense avoir fait, pendant la plus grosse affluence, au moins 6 tours du site avec les forces de l'ordre, on vérifiait à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un problème, nous essayons de recadrer, nous avons repositionné à l'arrière du site, là où on a constaté des problèmes, surtout à l'arrière du site, là où certains jeunes s'agglutinent. Les forces de l'ordre qui sont là en permanence, on pouvait les remarquer en passant. Donc, et puis, les bousculades, les bagarres, il faut les éviter. Et donc, nous avons installé beaucoup de caméras sur le site et nous avons 3 à 4 postes de visionnage. Chacun, on surveille en permanence à la fois les entrées et les intérieurs également du site, y compris depuis mon bureau, je surveille également. Et donc, voilà, toutes ces raisons, comme on a parlé de désencombrement, vous savez, toujours il y avait des camions qui, c'est toujours un problème de sécurité, mais nous avons ouvert un autre portail pour les déchargements, les camions, les poids lourds qui rentraient. Aujourd'hui, on envoie plus sur le site pour que ça soit plus facile d'accès. Au niveau des congés, effectivement, de toute façon, c'est vrai que les congés, généralement, c'est proche de Noël. Donc, la foire n'est jamais rentrée dans les congés de Noël. Donc, il y a toujours des visites scolaires. On organise des visites scolaires ou on peut appeler des visites pédagogiques. Donc, les établissements s'organisent pour cela. Et donc, voilà à peu près, en résumé, tout ce que je peux
merci
dire.
Merci à vous, Alexandre, l'homme de Souza, DG de la Foire Togo 2000. Mais s'il y a des questions que nous n'avons pas pu poser au directeur, chers auditeurs, auditrices, vous avez la possibilité de vous adresser à lui sur le coup de 12h, lorsque nous allons ouvrir l'antenne. Et pendant ce temps... Nous continuons avec les autres sujets inscrits au menu, à savoir cette confrontation qui s'est produite le vendredi dernier à l'Assemblée nationale, quand des députés, quand des ministres se sont retrouvés en face des membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, dans le cadre de discuter ce fameux rapport d'audit que la Cour des comptes a publié il y a déjà quelques mois. Et qui continue à susciter beaucoup de débats. Revue de presse avec Mega Info qui écrit « Fonds Covid-19, début des confrontations sur les confusions ». Il y aura début des confrontations sur les confusions. Et le journal relève que l'Assemblée nationale, par le biais de sa commission d'enquête, a confronté les membres de la Cour des comptes et les membres du gouvernement. Les discussions ont été parfois houleuses, mais à l'arrivée, on note toujours des zones d'ombre autour de ce rapport. Autre journal, c'est Togo Matin qui écrit, lui, la page 3, que retenir du débat contradictoire à l'Assemblée nationale. Et le journal relève que les deux parties, à savoir les membres du gouvernement et ceux de la Cour des comptes, ne se sont pas comprises, aussi bien dans les démarches visant à entreprendre cet audit que la compréhension qu'il faut avoir du rapport. Et Nouvelle Opinion écrit, lui, que le rapport, un rapport pour situer l'opinion, la présidente de la commission d'information, la députée Lexim, a annoncé qu'à la fin, sa commission va publier un rapport et peut-être que, à la publication de ce rapport-là, nous verrons tous. Jacques Jacouti, d'abord, nous notons une grande première que des ministres se sont trouvés en face des membres de la Cour des comptes pour s'expliquer sur ce rapport qui défait la chronique depuis des mois.
Peut-être, ça, vous allez m'excuser, peut-être que je peux choquer certains, mais je ne voyais pas l'opportunité de cette rencontre entre les ministres, les députés et la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes a produit un rapport. Et c'est suite à ce rapport qu'il y a eu polémique. Polémique où l'Assemblée nationale a demandé à rencontrer, à faire une autre expertise par rapport à la publication de ce que la Cour des comptes a fait. On n'avait pas besoin encore de mélanger cette Cour et les députés et surtout les concernés et surtout ceux qui ont également financé de l'argent. Ce n'était pas la peine. Parce que le spectacle auquel nous avons vu à l'Assemblée nationale, ce n'était pas bon pour l'image du Togo. Surtout les partenaires qu'on a mis ensemble avec les ministres, les députés et autres. On n'avait pas besoin de ça. Et l'autre aspect, j'étais un peu gêné concernant surtout le ministre des Finances. J'ai vu qu'il était tellement gêné dans la réponse qu'il donnait aux députés, surtout face aux responsables de la Cour des comptes. On comprend aisément que le problème n'est pas au niveau de la Cour des comptes. Le problème, c'est au niveau effectivement des documents qu'il fallait fournir. Et on a senti qu'il y a vraiment un problème au niveau du ministère des Finances. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Parce que quand vous suivez bien M. Asiba Guénou, vous savez que c'est quelqu'un qui a fait le ministère des Finances. Il était, je crois, au Trésor public. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les rouages du ministère des Finances. Vous voyez? Donc, on sent aisément qu'il y a un sérieux problème qu'il faut régler. Le sérieux problème, c'est quoi? J'ai constaté depuis un certain temps dans ce pays, et surtout au niveau de l'administration togolaise, qu'il y a trop de marins et trop de marines qui créent souvent des problèmes au niveau de l'administration. C'est-à-dire, le ministre, par exemple, donne des ordres. Il y a certains qui sont là, ils ne veulent pas exécuter les ordres du ministre. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un quelque part à qui ils peuvent rendre compte. Donc, quand le ministre demande un travail, on ne le fait pas. Vous avez vu la fois passée, ça se ressentit. Parce que la commission dit, nous avons demandé tel document. Le ministre dit non. C'est elle qui devait le faire, mais entre-temps, vous savez que Covid a passé par là.
Jacques, tu permets, à ce niveau-là, il y a quelques extraits que les journaux nous rapportent. Par exemple, dans les colonnes de Méga Info de Togo Matin, je lis que la Cour des comptes a précisé avoir travaillé sur les termes de référence avec le représentant du ministre des Finances et de l'Économie, et que si le ministre ne les a pas reçus, cela serait lié à un dysfonctionnement de ses propres services qu'il doit assumer. Ouais. D'autre part, la Cour affirme avoir envoyé le rapport provisoire au ministre de l'Économie et des Finances et c'est plus de 8 mois après que ce dernier a renversé la situation.
C'est ça, je voulais chuter là pour laisser la parole aux autres confrères. Oui. C'est pourquoi j'ai dit il faudrait aujourd'hui que l'administration togolaise change. Parce que certains, quand on les nomme à des postes, ils n'ont pas de compte à rendre au ministre. Ils ont des comptes à rendre à celui qui les a aidés, on les a nommés à ce poste. C'est ce que nous constatons dans l'administration. Parce que ce que j'ai suivi à l'Assemblée nationale, c'était le vendredi.
Oui.
Mais c'était ahurissant. Qu'on expose comme ça le ministre Sani Yaya. Ça, il faut reconnaître qu'on l'a exposé. Parce qu'il faut reconnaître que ce sont ces agents qui n'ont pas voulu trop coopérer avec la Cour des comptes, qui a créé effectivement tous ces problèmes.
Et moi, je ne vois pas. Le ministre qui récolte ça,
mais bien sûr.
Vous savez, Jacques, moi, je trouve le contraire, au fait. Lorsque l'Assemblée nationale avait fait asseoir cette nouvelle commission qui est issue des membres de cette Assemblée, j'étais la première personne ici qui avait dit il se pourrait que les bailleurs de fonds, tous ceux qui ont contribué financièrement, matériellement, à nous faire sortir de cette crise sanitaire, auraient peut-être exigé voir la clarté dans les choses. Vous savez, aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé, j'ai suivi les choses, je n'ai pas vu quelque part où on a exposé le ministre Sani Yaya, puisqu'il est l'ordonnateur de ce travail effectué par la Cour des comptes. C'est le ministre de l'économie et des finances, ou c'est le ministère même qui est l'ordonnateur. Donc c'était...
Des dépenses.
Oui, donc c'était à lui de venir répondre à toutes ces questions-là. C'est tout à fait normal. Et moi, j'ai beaucoup aimé les échanges francs. Lorsque la Cour des comptes parle, le ministre répond, le ministre parle. Si la Cour des comptes constate qu'il n'y a pas exactitude, elle réplique, c'est tout à fait normal. Et le ministre Sani Yaya lui-même, il a reconnu qu'après avoir fini le travail, on lui a envoyé le rapport provisoire. Il a dit qu'il confirme. Tous les retards accusés, il a dit qu'il confirme. Au fait, même ça, ça crée même de la crédibilité de l'État togolais vis-à-vis des partenaires. Ce débat-là est un débat même qui soigne même plutôt l'image du pays. C'est très important. Parce que là, vous voyez, ce que nous tous, on a vécu en ces temps, la façon dont on a sollicité les fonds pour résoudre le problème de la COVID. Et aujourd'hui, après, on apprend que non, que ça n'a pas été bien géré. Ça a été géré ceci. Il y a des institutions de la République qui ont refusé même de recevoir les membres de la Cour des comptes pour enquête nécessaire. Il y a des réceptions que la Cour des comptes même a pu lire, mais ne voit pas le matériel acheté. On dit par exemple qu'on a déchargé, qu'on a acheté la caméra, mais la Cour des comptes n'a jamais vu ces caméras-là. Vous voyez que ça fait rire. Ici même, moi, je trouve même que c'est un très bon boulot. Et nous avons titré que c'est le début d'une confrontation sur la confusion. Confusion parce qu'aujourd'hui, je trouve même que vous êtes en train de roubler le public que vous prétendez clarifier. Non! Le public ne comprend rien. Parce que jusque-là, si on voulait vraiment mettre les choses au clair devant le public, on le dirait clairement que tel fonds était destiné à ceci. Mais, comment vous les appelez, celui à qui on a attribué le marché pour l'achat ou pour faire ceci, il ne l'a pas fait. Ça, c'est clair. On le dit, soit on prend la personne ou c'est une société, on l'a saisi. On dit, vous devez rembourser ceci ou cela. Mais aujourd'hui, le public ne comprend rien. Vous êtes là à nous développer les concepts de ce domaine des finances. On est là à nous éclairer sur, est-ce que moi je ne confonds pas tel, je confonds
merci.
Tel.
Non. Mais comme dit si bien Uriel, il y a des confusions. Donc on note
trop de confusion.
Il y a confusion entre la Cour et le gouvernement sur les termes de référence même sur lesquels la Cour des comptes a travaillé. Et cette Cour, finalement, dit... la Cour dit n'indexer aucun cas de détournement, mais la Cour parle de non-respect et de non-conformité des procédures, de non-respect et de l'ignorance de certaines dispositions légales et comptables. Arim Yaou, finalement, la confusion demeure toujours après cette séance de confrontation.
Non, je crois qu'il faut regarder ce que l'Assemblée, qui a commandité l'audit, et la contre-expertise dit, l'Assemblée aussi a pris acte et a fini par avoir la lumière dans les grandes confusions qu'elle avait. Ça fait partie de son rapport. Et c'est pour cela que la responsable, la ministre Balouki,
la députée,
l'ancien ministre député aujourd'hui, Balouki disait, qui va avoir un rapport? C'est ce rapport qui intéresse la nouvelle opinion. Parce que le Togo a une particularité. Quand il y a une situation d'urgence, le Togo panique. Vous savez que quand il y avait Covid, le Togo a eu même des prix. Je crois qu'on avait même décoré le Togo, notamment dans la façon dont il gérait
dans la façon dont on prenait des dispositions urgentes et pressantes pour dire qu'on est en train de boucler. Il y a des zones où on avait bouclé, carrément. Vous ne pouvez plus voyager parce qu'on a vu un seul cas ou deux cas Covid. Donc le Togo était entre griffes dans ce zèle protecteur parce que le Togo cherchait à faire en sorte que les Togolais soient protégés. Et je crois que c'est conséquemment à cela qu'on a dû brûler des procédures. Et c'est ce que la Cour des comptes a relevé. D'ailleurs, lorsque une fois l'Assemblée avait convoqué la Cour des comptes, la Cour des comptes et les ministres, ils avaient chacun dit, et la Cour aussi avait pondu un rapport où elle disait avoir finalement compris que des procédures ont été brûlées, mais n'accuse personne de détournement. C'est ce qu'elle a confirmé la dernière fois. Donc, lorsque l'Assemblée commettait cette commission, je crois que les Togolais avaient commencé par crier qu'au finish, il y a eu des gens qui avaient volé de l'argent, qui avaient détourné. Mais aujourd'hui, tel que Uriel le dit, le Togo sort la tête haute, à mon avis, oui. Parce que elle est soupçonnée de vol. Et ceux-là qu'on a cru être corrompus, et ce que les gens attendaient, qu'à la fin de cet audit, on va mettre la main sur eux, et les partenaires, c'est-à-dire les bailleurs eux-mêmes, chacun a pu constater le débat houleux qui avait eu lieu, et chacun a pu, à mon avis, comprendre la clarté. Parce que quand les gens disaient qu'on a forcément volé, moi également, ici à ce plateau, j'avais dit que je ne croyais pas que dans un pays comme le nôtre, on puisse aller prendre des milliards par devers et croire que rien ne peut se percevoir. Tout tourne autour des procédures. Et je crois que dans les formes de procédures, quand il y a guerre, puisque le Togo avait dit, comme la France, que nous sommes en guerre, on se rappelle que lors de Covid, Macron, tout comme le président américain avait dit, qu'ils sont en guerre. Le Togo était en guerre. Et quand on est en situation de guerre, je crois que parfois on brûle les procédures. Et c'est ça qui peut faire comprendre la population dans le rapport que nous attendons de la commission de la
Pour une crise sanitaire. Didier Zomba, autre constat, c'est que c'est devant l'Assemblée que les ministres ont exhibé les preuves, les documents
ben oui.
que la Cour avait demandé et qui ne lui avaient pas été fournis.
Tout à fait.
Mais moi, je pense que mon aîné Rémi Yaou va un peu trop en besogne.
Bien sûr.
Parce que au finish, à la fin du débat à l'Assemblée nationale la dernière fois, si j'ai bien suivi, il a été dit, les députés ont dit que eux-mêmes là, rien n'est clair pour le moment.
C'est une confusion, je sais.
Donc, ça veut dire que, contrairement à la lumière dont parle mon aîné Rémi Yaou Tchanyao, la confusion est toujours là.
Même les députés eux-mêmes n'ont pas encore reçu la lumière.
Puisque la ministre, l'ancienne ministre, le Désir Mbalouki, dit que sa commission va devoir produire un rapport à soumettre à la plénière de l'Assemblée nationale. Donc jusque-là, on ne connaît pas encore la position officielle de l'Assemblée nationale dans cette affaire. Donc sa commission va produire un rapport à soumettre à la plénière de l'Assemblée nationale et c'est à la plénière d'apprécier quelle sera la suite à donner au dossier. Donc jusque-là, là où nous sommes là, rien n'est fini. Donc si c'est finalement lors de ce débat contradictoire que les autorités, des ministres ont dû produire ou ont dû présenter des preuves pour justifier un certain nombre de dépenses, alors qu'il y a, depuis que cette affaire a commencé, ou bien même avant, il y a plus d'un an, et ils auraient pu donner ces documents aux membres de la Cour des comptes pour que le rapport soit un rapport correct. Je pense fondamentalement que les économistes apprécieront et le public également, même les autorités au plus haut sommet de l'État apprécieront que depuis des dépenses effectuées depuis 2020, des gens n'ont produit que des preuves il y a quelques mois ou il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale. Tout le monde peut apprécier. Moi-même, pour des dépenses que j'ai eu à faire en 2020, si vous me demandez aujourd'hui des preuves, je peux vous les trouver facilement. Même si je ne les ai pas, ou les véritables preuves, je peux vous trouver quand même des preuves. Nous sommes dans une société tellement évoluée. Mais je pense fondamentalement que, je ne sais pas si l'État togolais lave son honneur, sa crédibilité dans cette affaire, mais on a dû louper quelque chose quelque part en 2020, ce qui fait que tout ça, ça va nous coller à la peau pour longtemps. Parce que pour des procédures, on ne peut pas prendre tellement de liberté. Parce que même s'il faut prendre des libertés, il faut quand même l'annoncer publiquement. Et vous savez, la Cour a clairement dit que on a réceptionné un certain nombre de marchés et elle n'a pas les documents, elle n'a pas les preuves, elle n'a pas les procès-verbaux de ce que tel marché a été réceptionné, tel produit commandé a été réceptionné. Et donc, je pense qu'on a un gros souci avec les dépenses qu'on a eu à effectuer en 2020, avec les marchés qu'on a eu à passer, et le rapport le dit clairement. Maintenant, si on estime que personne n'a gardé de l'argent public par devers lui, bon, je crois que ça va être le cas. Mais moi, je repose la question qu'a posé le député président du groupe parlementaire Unir la dernière fois. Qu'on nous dise clairement, est-ce que quelqu'un a volé l'argent dans cette affaire de Covid? Même s'il n'a pas eu la réponse là-bas, qu'on nous dise, c'est la réponse que tout le monde attend. Si quelqu'un a pu garder en un moment donné une partie de l'argent. Mais on voit que dans la gestion du Togo, Aïm Yaoui a dit qu'il ne croyait pas que quelqu'un pourrait garder de l'argent. Les dossiers sont légion. Des gens ont gardé beaucoup d'argent. Et on ne va pas revenir sur beaucoup de dossiers qui ne sont pas clarifiés depuis tout ça. Donc je pense que les dossiers où les gens ont gardé de l'argent sont...
C'est vrai que les dossiers qui font polémique, la fameuse route Lomé-Vogan en foin, la participation du Togo aux phases finales des Coupes d'Afrique des Nations 2013 et suite, hein, il y a encore des gens qui prétendument ont gardé l'argent par devant eux.
Oui.
C'est pas encore. Mais pour revenir donc à ce sujet, je rappelle que en tant que la Cour avait publié son rapport et que la polémique a commencé, l'Assemblée avait reçu pratiquement tout le gouvernement à leur demande. Et l'Assemblée avait pratiquement pris parti pour le gouvernement que les fonds étaient bien gérés. C'est la même Assemblée qui est revenue mettre sur pied une mission, une commission d'enquête composée de 27 membres. Et c'est au sein de la commission d'enquête qu'il y a maintenant la mission d'information de 7 membres qui a écouté les ministres d'un côté, qui a écouté les membres de la Cour des comptes, et maintenant qui a organisé la confrontation et qui promet le rapport final. Je fais cette précision pour que les gens sachent très bien d'où on est parti et où on souhaiterait arriver.
Non, votre pédagogie, elle est excellente. Vous savez, tout est jusqu'ici confusion. Je vous assure que lorsqu'on dit que pour des raisons sécuritaires, on a apprécié même cette urgence sécuritaire des guerres, qu'on a violé la procédure de passation des marchés. Alors qu'en ce moment, le service public était fonctionnel 24 heures sur 24. Les gens travaillaient dans les hôpitaux. Les forces de l'ordre et de sécurité travaillaient sur le front. Partout, tout le monde travaillait. À l'aéroport, ça fonctionnait. Dans les radios, tout le monde travaillait. Maintenant, à quel niveau on peut trouver excuse pour la violation de la procédure de passation des marchés publics? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas cette procédure qui allait retarder pour qu'une ou deux personnes ne meurent pas de Covid. Vous voyez, lorsqu'on fausse la procédure là, aujourd'hui, je vous assure, pour retracer, pour retrouver les traces, ça sera tellement compliqué. Vous allez traîner cette affaire-là ici jusqu'à un jour, on dit que c'est une affaire sans issue. Pour le simple fait qu'on a violé la procédure de passation des marchés.
De toute façon, l'Assemblée a pris l'engagement d'aller au bout de son travail et de rendre les conclusions publiques.
Allez, non, bon, moi je voulais dire tout simplement que Didier peut-être m'a mal compris. J'ai dit que le Togo a cette particularité qu'en face des urgences, le Togo panique. Je crois que c'est un fondamental qu'il faut retenir. Et je dis que les Togolais ont cru que nous étions en guerre, comme les Macron.
Tu as cité des chefs de
guerre. On a dit que nous sommes en guerre.
Oui.
Et en situation de guerre, tout est au rouge. C'est ce que je voulais dire.
Mais justement, la question, est-ce que, parce que nous étions en situation de guerre sanitaire, que des ministres pouvaient se permettre des libertés par rapport à la procédure?
Justement, vous allez voir que au niveau de l'Assemblée et à tous les niveaux, les gens ont dit avoir pris acte des erreurs et qu'à l'avenir, il y aura quelque chose qui va se faire pour corriger les tirs. Donc ça veut dire que quelquefois, les gens reconnaissent qu'il y a eu des fautes. La Cour des comptes également l'a dit. Le gouvernement l'a dit. C'est l'Assemblée aujourd'hui. C'est qu'il y a eu des égarements, des erreurs. Tout le monde le sait. Et vous et moi, chacun le sait. Mais ce qui intéresse le Togolais, c'est la question que Didier a posée. Et c'est ça qui m'intéresse aussi.
Oui.
Et tous ont dit n'être en train d'accuser qui que ce soit. de détournement. C'est la Cour des comptes qui est l'organe technique, l'instance technique, qui peut voir si oui ou non les gens ont détourné. Elle a dit qu'il y a eu des manquements, mais ne dit pas qu'il y a eu des gens qui ont détourné.
Mais Arignan, généralement, quand les gens s'écartent de la procédure, cela s'appelle détournement.
Oui,
détournement d'objectif.
Tout dépend des détournement de tout dépend des mots que chacun va employer. Moi, je ne l'emploie pas ici, bon, mais j'ai dit,
je tire la conclusion.
Dit qu'il y a des manquements.
Oui, mais généralement, mais généralement, Arignan, généralement, dans tout rapport, quand il est avéré que vous avez exécuté un projet, que vous êtes écarté de la procédure, soit on vous accuse de détournement d'objectif, ou bien de détournement de ressources, ou de ceci. Mais de cela. Mais attendons quand même.
Le rapport doit venir nous clarifier.
Pour terminer, Jacques, je disais que c'était une grande première que voilà. Des ministres hein, se sont confrontés avec des membres de la Cour des comptes et en face du corps diplomatique et des bailleurs de fonds. Une grande première. Est-ce que cela ne risque pas de laisser des traces dans l'histoire? Ça, c'est de deux. La procédure toujours. Je rappelle que le 6 octobre 2023, quand l'Assemblée installait la commission, c'était une commission d'enquête composée de 27 membres qui avait un mandat de 45 jours. Si on fait le calcul, du 6 octobre à ce jour, nous avons dépassé les 45 jours. Ça, c'est deux. Et de trois, on nous a parlé d'une commission d'enquête. Et à quel moment l'Assemblée ou bien sa commission sont allés à cette mission d'information maintenant qui fait confronter les gens?
Vous savez, ça, moi, je repose toujours la question sur l'utilité de cette rencontre entre l'Assemblée nationale, les députés, la Cour des comptes et les ministres. Quelle est l'utilité? La Cour des comptes a produit un rapport. La Cour des comptes a énuméré des manquements. Mais c'était maintenant à l'État togolais de tirer les conclusions et de dire effectivement au bailleur de fonds là où nous avons fauté. On n'avait pas besoin encore de demander encore une commission spéciale de l'Assemblée nationale, d'écouter encore les ministres, d'écouter encore la Cour des comptes. Parce que la même Assemblée nationale avait applaudi entre-temps ce rapport-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a encore poussé?
Elle n'a pas plutôt, l'Assemblée avait plutôt soutenu.
Les ministres.
Contre le rapport. De la Cour des comptes.
Mais justement, maintenant on revient encore, et la même Cour, et les mêmes ministres, et les députés ont se retrouvé encore pour poser des questions. Moi, je dis, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le rapport est là.
Oui.
Prenons le rapport à tête reposée. Là où il y a les manquements,
merci.
On corrige les manquements en avance.
Une minute pour terminer avec ça, s'il te plaît.
Une minute pour terminer. Je pense que ce rapport a le mérite de nous révéler beaucoup de soucis qu'on a avec les marchés publics. Vous savez, je connais des gens ici, Arim Yaou lui-même et Uriel lui-même, pour avoir une petite entreprise de presse. Vous savez quelle misère on nous fait faire pour avoir un document administratif, même si vous devez avoir un marché de 200 ou de 300 000. Mais des gens.
Même 100 000.
Même 100 000.
Oui, oui.
Donc tu as bien précisé. Mais comment on a pu donner. C'est le mérite de ce rapport. Bon, de quoi on peut dire qu'il n'y a pas eu de détournement, mais moi je peux croire à ça. Mais comment on a pu donner des marchés de millions, des millions,
de
plusieurs
milliards.
Milliards à des entreprises qui venaient d'être créées en plus et qui n'ont aucun document administratif, aucun document fiscal. Rien du tout, on a pu donner. On a tous lu le rapport. Des gens ont prétendu qu'on n'avait pas bien lu, mais on a tous lu quand même les parties qui nous intéressaient. Donc, on pouvait. Une fois que la procédure a été viciée et que des sociétés auxquelles on avait donné les marchés n'avaient pas de documents fiscaux qui les reconnaissaient en tant que des sociétés comme ça en activité, mais ça pouvait penser à beaucoup d'autres choses.
Ah oui.
Enfin, on est au Togo, bien sûr qu'on est au Togo, mais ailleurs, ça aurait pu aboutir à d'autres choses.
Merci. Eh bien, laissons la mission d'information ou la commission d'enquête aller au bout de leur travail et peut-être que nous aurons le rapport final qui nous situera. Et il est 11h56 minutes. Nous n'avons plus le temps de débattre des autres sujets, pas moins importants. Il s'agit donc du fichier électoral que la mission d'audit de l'OIF avait certifié, qui avait suscité beaucoup de débats. Et depuis la semaine dernière, l'OIF donne sa part de vérité. Comme l'écrit Togo Matin, l'OIF remet les pendules à l'heure. Alors on découvre que l'OIF demande à ne pas confondre la mission d'audit du fichier électoral avec les autres acteurs intervenant dans le processus. Et puis l'OIF a spécifié que c'est sur demande de l'État togolais qu'elle est arrivée. Laquelle demande de l'État togolais était justifiée, était partie des travaux de la Sénat, dans la concertation entre acteurs politiques. Bon, les partis politiques qui s'expriment depuis, mais dont certains sont représentés à la Sénat, d'autres pas, on pourra tirer la conclusion. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet. Rapidement, la lutte contre le terrorisme, qui a besoin des efforts multiples. La semaine dernière, et comme l'écrit Togo Matin, il y a eu un colloque international de recherche de solutions à ce problème. Et il a révélé que la lutte contre les fléaux, la lutte contre le terrorisme dépasse largement le volet militaire et qu'il faut tenir de tous les aspects, notamment les paramètres de santé, de démographie, de gestion du territoire, les relations internationales, les relations économiques et monétaires et consorts. L'État même, le gouvernement même, en Conseil des ministres jeudi dernier, est revenu là-dessus, à savoir un décret qui a été pris pour officialiser le PURS et c'est ce qu'il fait. Il y a également des ONG qui travaillent dans la région. C'est ainsi que l'ONG IT Village a procédé à l'inauguration d'un bâtiment scolaire dans le village de Kourdjouak, à 20 km au sud-ouest de Dapaon. C'était pour participer à cet effort de guerre. Également, Togo Nouvelle Opinion nous parle également d'un carrefour des jeunes qui a été organisé dans la région également. Il faut donc permettre aux jeunes d'initier des activités économiques et de se rendre autonome et également participer à la résilience contre le terrorisme. Les sujets sont divers, mais je vous accorde une minute. Vous prenez ce qui vous tient à cœur.
Voilà.
Harry Miao est ton président et puis ton aîné.
Il se pourrait que je brûle tout le temps et puis ça y est quoi. Voilà, moi ce qui m'intéressait au fait, c'est la loi de finances budget 2024.
Oui.
Qui s'élève à plus de 2000 milliards. Vous avez vu que c'est le sujet qui nous a plus intéressé.
2166,1 milliards de francs.
Voilà. Mais les membres du gouvernement ont mis plus l'accent sur le respect de la discipline budgétaire. Mm-hmm. C'est très important. Vous savez, Canal FM, par exemple, vote un budget de 1,5 milliard pour l'année 2024. Et vers la fin de l'année, on constate que vous avez tellement effectué des dépenses jusqu'à déborder. Ce qui oblige souvent les rectifications. Mm-hmm. Ces dernières années, le Togo a tellement rectifié les budgets que on s'est dit, bon, si les différents responsables des sociétés ne tiennent pas vraiment rigueur sur leur budget, chaque année, on sera là dans les rectifications. Et les dettes nous rattrapent.
Merci. Harry Miao, sujet de ton choix.
Non, bon, moi, je voulais parler de la question du terrorisme pour dire que effectivement ce qui se fait dans les savanes avec quelqu'un comme Noël Dupokin, que tout le monde connaît, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'occuper et que les voyous ne puissent venir les recruter à d'autres fins. Mais au-delà de cette initiative, je crois que les pays, notamment de notre sous-région, peuvent approcher d'autres qui ont déjà une avance sur la question. Je voulais parler par exemple du Mali, qui est en train presque de venir à bout de cette nébuleuse. D'autres pays peuvent aller apprendre comment ça se fait et continuer par faire de façon concertée la bataille contre ce terrorisme qui plombe carrément et rétrograde notre sous-région et pourquoi pas le continent tout entier.
Ton souhait est légitime. Je peux t'informer que des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana ont participé au colloque universitaire pour réfléchir sur la problématique de lutte contre le terrorisme. Et Didier ?
Oui, je crois que pour la question du terrorisme, c'est assez fondamental pour nous. Si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas prétendre au développement.
On ne peut même pas venir allumer le club de la presse.
Naturellement. Et donc, il faut véritablement que les réflexions continuent et qu'on puisse trouver les voies et moyens devant nous permettre de mieux circonscrire le problème et de mieux le résoudre. On sait naturellement, et comme ça a été dit lors de ce colloque-là, que la solution tout militaire ne pourra pas permettre de venir à bout naturellement de cette histoire de terrorisme. On le voit à peu près dans les pays du Sahel, un peu chez nous au nord du Togo. Il faut véritablement que là où l'État avait perdu la main ou avait délaissé la main, il faut que l'État y retourne d'abord là-bas et que l'État marque sa présence. Et la présence de l'État, pour reprendre quelqu'un, ce n'est pas lorsque le chef de l'État vient et qu'on agite les mains, que des gens sont contents et que même qu'on distribue de l'argent derrière. La présence de l'État, c'est que quand les Togolais de Pendjal, par exemple, ont besoin de l'eau, qu'ils aient de l'eau. Ils ont besoin de l'électricité, qu'ils aient de l'électricité. Ils ont besoin d'aller à l'école, qu'ils aient à l'école de façon sereine. Et donc, je pense que cette question de terrorisme repose même la question fatidique de développement de façon holistique. Et donc, si nous voulons nous développer, commençons par là.
Merci, Jacques Jacotti, une minute aussi pour prendre le sujet de ta préférence.
Non, je voudrais revenir par rapport au budget. Vous savez, qui parle de budget parle également de la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu nos entreprises souffrent beaucoup par rapport aux impôts. Il faudrait aujourd'hui que l'OTR ne puisse pas tuer encore ces entreprises en vouloir encore prélever ces impôts et permettre effectivement à ces entreprises-là de fermer. Parce que vous avez vu un peu le gap que l'OTR doit apporter à ce budget, ce qui veut dire que si on ne sait pas faire, d'autres encore vont mettre les clés sur les personnes et partir. Donc, il faudrait que cela soit effectivement une disposition gagnant-gagnant. Faudrait pas que on tue effectivement ces entreprises-là avec trop d'impôts.
Merci beaucoup. En même temps, l'État a besoin que l'OTR lui mobilise des ressources pour financer les progrès, les projets sociaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Mais comme tu le dis, c'est une récitation qu'on a apprise à l'école primaire, hein. La poule aux œufs d'or. Il ne faut pas tuer la poule pour prétendre extraire tout l'or, mais plutôt nourrir la poule pour qu'elle puisse continuer à pondre les œufs au fur et à mesure. Ouais, ouais. Eh bien, c'est parti, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Nous avons principalement parlé aujourd'hui de la 18e foire internationale de Lomé avec son directeur qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et puis également cette confrontation inédite entre députés et membres de la Cour des comptes sur un rapport qui nous laisse encore beaucoup de zones d'ombre. La parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui.
Je salue sur le plateau, c'est l'évangéliste Saint-Jean.
Oui, nous vous écoutons.
Soyez écoute béni là.
Merci beaucoup.
Bon, je voudrais m'intéresser un peu de Covid-19. Sauf, le vendredi, j'étais dans la salle à l'Assemblée nationale.
Vous y étiez vous-même?
J'étais là moi-même. J'étais invité en tant que citoyen togolais, j'étais civil.
Très bien.
Mais ça, le jour là, le vendredi là, j'ai failli verser les larmes.
Et pourquoi?
Je dis, j'ai failli verser les larmes.
Et pourquoi?
Voilà. Vous savez, et on ne comprend plus rien que les gens, les fonds de Covid, les gens, je ne pas comme l'argent de leur cuisine à la maison. Je vais le réitérer. Comment est-ce qu'on peut gérer un fonds qui appartient à la nation pour sauver le peuple comme les fonds de sa cuisine? Mais vraiment pas, parce que pas beaucoup de choses à dire. Mais pour cette affaire-là, si le chef de l'État n'arrive pas à dire quelque chose, je crois que la population togolaise, de Lomé, Tchoumoua, Tara, Tenkati, nous irons au fond. Et Dieu est là aussi pour que chacun puisse vraiment essayer quand même de revenir en arrière.
Merci pour beaucoup. Comme pour dire que nous avons besoin encore de beaucoup de lumière pour éclairer toutes les zones d'ombre de ce rapport. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Tariki.
Monsieur
Tariki.
Sariki.
Oui,
à Tariki. Ok.
Oui. Je voulais aller. D'abord, je salue l'invité, le directeur de CETEF.
Oui.
Bon, je suis très heureux d'apprendre les innovations qu'ils ont apportées parce que c'est quelque chose que j'étais en train de travailler aussi là-dessus pour les apporter ça.
Très bien.
C'était pour vendre. Pour les vendre, mais j'ai constaté que. Ils ont progressé beaucoup.
Non, vous êtes en retard. La prochaine fois, vous levez beaucoup plus tôt.
Non, ce n'est pas fini. Quand il a parlé, j'ai téléchargé leur application. J'ai dit que, en fait, ce que je voulais leur apporter, il manque. C'est un truc bon. Je ne sais pas s'il est intéressé à m'écouter. Bon, s'il le veut.
Bon, vous allez l'approcher. Vous allez l'approcher après l'émission en partenaire. Vous saurez vous entendre.
Ok, d'accord. Et bon, je voulais aussi intervenir, juste pour donner un complément à notre cher journaliste, je sais pas comment il s'appelle, Monsieur Amoussou Guénou, il fut mon enseignant au centre de formation bancaire du Togo. Il fut aussi un ancien ministre de l'économie. Bon,
oui.
Je crois que le journaliste avait manqué. Il voulait dire ça, mais c'est comme s'il doutait. Donc,
pour dire que Amoussou Guénou, c'est un homme pétri d'expérience.
Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Pariki, qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Allô, bonjour, Sars. Bonjour, Tchanyao.
Didier.
Oui, comment ça va? Monsieur Tchanyao, bonjour. Allô?
Oui, Didier.
Oui, Monsieur Tchanyao, bonjour.
Didier, comment bon, tu moi, me vas bien?
Je suis d'accord avec Monsieur Tchanyao. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Parce que nous, Togolais, on ne sait pas lire les rapports. On lit les rapports comme une carte de restaurant. Mais je voulais poser une petite question à lui. Mais vous avez dit qu'il n'y a que des manquements. S'il y a des manquements, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de punition. Si vous manquez aux procédures, donc il n'y a pas de conséquences. C'est ce que je voulais qu'il puisse me l'éclairer là. Comme il n'y a pas de détournement, il n'y a que des manquements. Mm-hmm. S'il y a des manquements, quelles sont les conséquences? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Entre vieux amis, Harry Miaou vous répondra bientôt, Didier. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui.
Joseph Innocent.
Oui.
C'est Joseph Kouniegbe.
Joseph
Kouniegbe.
Kouniegbe.
Oui.
Mm-hmm. Nous vous écoutons.
Je salue l'invité.
Oui.
Ainsi que tous tes confrères du plateau. Je voulais intervenir par rapport à la durée de la foi.
Mm-hmm.
Et pour dire à l'invité, en fait, c'est une proposition que si un sondage se fait par rapport à cette durée sur le site, je crois que ça pourrait l'arranger. Parce que, effectivement, on se dit aussi, la durée n'est-elle pas si courte? Mais par rapport à sa réponse, je souhaiterais qu'un sondage soit fait.
Pour situer tout le monde. Faire un sondage sur la foi, sur ce que les gens, les uns, les autres pensent de la prolongation, de la foi, c'est ça?
Exact.
Merci beaucoup. Il a noté, il vous reviendra dans un moment. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Je voulais parler à propos de la poire là.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Souleyman.
Souleyman.
Oui.
Nous vous écoutons.
C'est que, on dit, le monsieur a dit que le week-end là, c'était à mi-temps. Supposons que moi je viens à la foire, c'est pas pour suivre les concerts. C'est pour venir faire des achats ou voir les choses.
Mm-hmm.
Mais comment? Je vais payer 1000 francs pour rien. C'est ça que je voulais demander.
Mm-hmm. Merci beaucoup. C'est bien noté. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui.
Abdel.
Abdel.
Oui.
Oui, vous avez la parole.
Je ne sais pas ce que notre frère Tchanyao met dans lorsqu'il y a. Le Togo est en situation d'urgence, le Togo panique. Panique, c'est quoi? Lorsqu'on a la responsabilité de gérer tout un fonds, de tout un peuple, on ne doit pas paniquer. Soit on n'a pas les compétences nécessaires pour le faire, et on doit en tirer les conséquences. Mais je ne vois pas pourquoi il s'illustre en avocat de diable pour défendre ces gens, pour défendre comme ça ces messieurs. Il doit, lui, en tant qu'éclaireur du peuple, faire en sorte que le peuple soit bien éclairé. Lorsque les procédures sont violées, c'est parce qu'il y a une idée derrière la tête. Et ce qui s'est passé au fond du dossier, nous devons le savoir. C'est pour l'intérêt de tous, pour lui-même d'abord. Mais quand il se prend le plaisir de défendre de cette manière, moi, ça me gêne. ça me gêne pour l'activité que lui-même il fait. C'est, ça me gêne.
Merci. Merci beaucoup, Abdel. Harry Miaou reviendra pour vous répondre. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, Charles.
Oui.
Monsieur Garou.
Nous vous écoutons, monsieur Garou.
Bon, le tableau, mais je le t'appelle, ça dit, le plateau va me départager. Vous savez ce qui s'est passé?
Non,
moi, j'ai dit, si réellement la Cour des comptes a raison, le président Faure doit arrêter le fautif. J'avais dit ça sur vos antennes. Un ministre m'a appelé pour dire, mais ce que je dis là, c'est pas bon. Mais il m'a refusé, je t'avais même dit ça, ça. Bon, maintenant, si vraiment il y a détournement, pourquoi ne veut pas les arrêter? Si le président Faure se lève aujourd'hui là, pour les aider, nous sommes derrière lui. Au cas contraire, j'ai dit encore que le président Faure doit verser ce qu'ils ont payé de ses propres frais et poches, parce que c'est lui qui les a amenés. Vous voyez, parce que c'est lui qui les connaît. Bon, l'argent, c'est pour le peuple. Donc, moi, ce que je demande, si vraiment il y a des tournements, on n'a qu'à les arrêter. Au cas contraire, le président Faure d'Assimé va payer l'argent de ses propres poches. Et poches. Merci, bonne journée.
Merci, je parie que le chef de l'État a écouté M. Garot. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, M. Sass.
Oui.
Monsieur McVell.
McVell.
Oui.
Oui, nous écoutons.
Je vous appelle depuis Wetiri-Kondi.
Ok, tout à côté ici.
Oui.
Ok.
J'aimerais intervenir par rapport à la CETEF.
Oui.
La foire de Togo 2000.
Oui.
Monsieur Sass, vous savez, avant de rentrer à l'intérieur de la foire, il faut payer au moins 500 francs avant de rentrer.
Vous êtes allé quel jour?
Le dimanche.
Dimanche, vous avez payé 500
avant de rentrer.
Ok.
Mais n'oubliez pas que quand vous rentrez, les prix ne sont pareils que ce qui est en ville.
Les prix de quoi?
Les prix des boissons, des biscuits, de tout. C'est presque la même chose en ville.
Oui.
J'aimerais savoir, qu'est-ce qui est foiré dans ça? Quand vous parlez de la foire, qu'est-ce qui est foiré? Les prix ne sont pas foirés, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Laissez-moi vous dire. Pourquoi?
Ok. C'est-à-dire, vous aurez souhaité qu'on casse les prix à la fois, c'est ça?
Voilà. Ah-ha. C'est ça,
ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je note que nous avons eu beaucoup de nouveaux intervenants aujourd'hui, ce qui fait que le débat est encore nouveau, qui vient s'ajouter aux anciens et fidèles auditeurs. Alors, monsieur le directeur. Alors, oui. Le dernier auditeur qui aurait souhaité que les prix fussent cassés à la fois. Il fait le constat que les prix affichés à la fois, c'est la même chose qu'en ville.
Et on a eu d'autres constats contradictoires. Certains nous disent, mais on vient à la fois, les prix sont même plus élevés que ce qu'on trouve en ville.
Bah, alors, il a précisé les boissons.
Alors, oui, chacun est intéressé par quelque chose en venant à la fois. Et donc, il est intéressé par les boissons. Mm-hmm. Il voudrait que les prix soient cassés. En réalité, nous n'avons pas... Les commerçants ont leur propre stratégie de commercialisation. Et nous n'avons pas à intervenir là-dessus. C'est exactement ce que je disais hier, mais si nous venons leur dire, écoutez, divisez vos prix par deux, comme ils disaient, divisez le prix du ticket par deux, on leur demandait la même chose. Si on venait vous dire, mais chacun a sa stratégie, comment faire? Et je sais, ces commerçants sont très intelligents et savent à quel moment peut-être ils liquident, à quel moment ils ne liquident pas. Donc ils font, mais merci. Ça se fait.
De deuxième question, monsieur Souleymane qui dit que si lui veut aller à la fois le week-end, mais il ne veut pas aller visiter les concerts, il veut seulement aller dans les rayons des expositions, des exposants. Pourquoi on lui fait payer le prix comme celui qui est allé au concert?
Effectivement, sur la foire, on ne peut pas prendre les gens individuellement. Il y en a qui viennent pour une minute pour voir le Made in Togo, etc. La personne peut demander, je viens juste sur ce parking-là, faites-moi le prix à 100 francs. Je ne suis pas intéressé par vos autres expositions ou les autres événements ou les concerts ou les conférences ou les B2B ou etc. Donc chacun peut prendre un argument pour dire je viens que pour ça, donc faites le prix en fonction de ma tête ou de ce que je viens faire. Ce n'est pas possible, c'est une moyenne qu'on a fait. Comme je disais au début, c'est-à-dire un prix à 1000 francs, un papa qui vient à 1000 francs avec 4 enfants, normalement ça devait être 5000, mais si c'est à 1000 francs, ça veut dire que le prix est à 200 francs. Ou même si c'est un jeudi où le prix est à 500 francs, il vient avec 4 enfants, ça veut dire que le prix est à moins de 50 francs, etc. Donc, nous tenons compte, c'est une offre globale, c'est quelque chose.
Merci. Dernière question, monsieur Joseph Kouniegbe, qui souhaiterait que vous fassiez un sondage pour voir s'il faut arrêter le 3 décembre prochain ou bien s'il faudra proroger un peu.
J'entends les arguments de M. Joseph. Sur le site, nous en faisons. Donc, nous sommes en concertation avec les délégués des exposants et nous y réfléchissons. Nous allons apporter très très bientôt, peut-être même d'ici ce soir, une réponse aux diverses préoccupations de nos exposants et de nos visiteurs.
Merci. Arim Yaou, la question de Didier, quelles sont les conséquences des manquements qui sont relevés à ceux qui ont géré le fonds Covid? Et puis Abdel qui ne comprend pas qu'au sommet de l'État, on se fût allé à la panique pour cette affaire de Covid.
Là, je commence par Didier pour dire que quand il regarde le journal Nouvelle Opinion d'aujourd'hui, nous avons dit qu'un rapport viendra clarifier l'opinion, les choses à l'opinion. Donc ça veut dire que s'il est avéré qu'il y a eu des détournements ou qu'il y a eu vol, ça veut dire qu'il doit avoir des conséquences. Et dans ce rapport, le Togolais ou l'opinion nationale et internationale verront ce qui va être fait comme conséquence de ce qui a été vu à travers les propositions et les propos des uns et des autres. Merci. Maintenant, pour la panique dont je parle, j'ai cru entendre pendant que nous avons Covid au Togo, quand j'ai dit qu'on a paniqué, j'ai dit que le Togo avait des comportements exceptionnels, que ce soit dans la sous-région et dans le monde entier, ce qui lui valait même certains prix. Et pour moi, c'était une panique. Et quand je regarde un peu, au moment où, même pour les vaccins, c'était vraiment du démarchage, de la négociation. Il fut des moments où le gouvernement sortait pour dire que nous sommes en train de nous battre pour qu'on mette à notre disposition le vaccin. Ça veut dire qu'en ce moment précis, si quelqu'un, un kidam, sortait d'un coin et qui venait dire au gouvernement togolais que moi, je peux dans 72 heures vous amener le vaccin, c'est en cela que j'ai dit que Didier relevait qu'il y avait des sociétés qui se sont créées en même temps qui ont eu des marchés. Ça veut dire qu'il y avait une force, une forte attente au niveau de la population. Nous-mêmes, on insultait.
On peut comprendre au niveau de la population,
on se plaignait même
de l'État qui se fût allé à la panique.
Et c'est pour ça que j'ai dit, oui, Covid avait été quelque chose de spécial. Et si on veut être réaliste, on le comprendra aisément que nous-mêmes, on insultait le gouvernement à une
merci beaucoup
de n'être pas en mesure d'amener les vaccins.
Donc, j'accorde une minute à chacun des trois autres confrères pour votre impression ou bien le mot de clôture. Uriel Kakwala,
pas encore, pas pour une impression sur le sujet débattu.
Une minute
c'est beaucoup pour moi. Juste pour souhaiter une très bonne célébration de la fête Singaring à toute la population de la Bina. C'est pour ce samedi, donc, et vous inviter en même temps à sortir de Lomé pour aller découvrir ce qui se passe.
Nouveau plateau aussi, nous aurons une invitation spéciale.
Oui, oui.
Ok.
Oui, oui.
Didier ?
Non, que dire d'autre ? On a suivi le débat. Nous, ce que nous disons, Togolais, c'est que nous ne sommes pas dans les histoires des initiés. Dites-nous simplement ce qui s'est passé. Et ce que nous voulons, c'est que, bon, comme j'ai dit au départ, quand nous voulons de l'eau potable, qu'on puisse boire de l'eau potable et non l'eau de la rivière. Si nous avons besoin de l'électricité, qu'on puisse l'avoir. Que veut le peuple à part ça?
Eh bien, autrement dit, le peuple veut les populations, parce que le peuple là, c'est un peu bizarre. Les populations attendent une réponse en français facile,
ouais, simplement,
de ce rapport d'audit de la Cour des comptes. Jacques Outi.
Non, vous savez, moi je reviens à ce que j'avais dit tout au début. Je plains beaucoup le ministre Sani Yaya dans cette histoire. Il faut reconnaître que c'est lui qui est dans le troubillon aujourd'hui. C'est lui seul qui est à la manœuvre, qui cherche à se justifier. Mais je sais que ce qu'il est en train de faire, il ne peut convaincre personne. Ça, il faut le reconnaître. Parce que dans son tréfonds, il sait ce qui se passe. Mais il ne peut pas lui dire. Je voulais chuter pour dire, interpeller les banques. Parce qu'il y a un sujet actuellement qui fait polémique au niveau de ceux qui ont fait les prêts en 2022-2023. Parce qu'il y a une histoire de prélèvement des timbres. C'est l'expression utilisée au niveau des banques qui fait polémique actuellement.
Toutes les banques?
Oui, toutes les banques. Il y a ce problème. On ne sait pas ce qui se passe. Il faudrait que les responsables
les
de banques
expliquent à leurs clients, à toute la population.
Justement.
Monsieur le directeur Alexandre et l'homme de Souza, directeur du CETEF, une minute pour clore cette émission.
Je sais que vous allez nous ramener au...
À la fois, voilà, parce que oui, c'est l'événement qui retient notre attention à ce moment et qui retient aussi l'attention de nos populations, de toute la ville de Lomé et des environs. Et donc, nous écoutons, comme dit tout à l'heure, les doléances de nos exposants et même de certains visiteurs. Comme dit, nous allons y travailler, nous apporterons des réponses assez rapidement, peut-être même d'ici ce soir, nous en reparlerons. Nous les invitons quand même à plus d'engagement, à venir à la foire. La foire se passe très très bien, comme on a eu à le démontrer, ça se passe très bien. Et ne pas prêter l'oreille, c'est-à-dire il faut prêter l'oreille aux voix officielles, aux médias que vous êtes plutôt que sur ce qui se passe, parce que sur les réseaux sociaux on grossit la réalité, ce n'est pas exactement les faits. Et donc tout se passe bien à la foire et j'invite toute la population à venir et à participer, à venir s'amuser, découvrir nos exposants, découvrir les étrangers qui sont parmi nous dans notre
Merci pays. À vous, le directeur. Bonne chance à nous tous à la fois. Pour terminer, le club de la presse solidairement adresse un carton vert à l'équipe du Togo, vainqueur de la deuxième édition du championnat africain de football scolaire des moins de 15 ans de la zone B UFOA filles. Ces filles qui ont remporté leur tournoi en battant en finale le Ghana par 1-0. Et c'est pas fini, le Togo a remporté le tournoi et la meilleure joueuse du tournoi est la capitaine des Togolaises. Elle s'appelle Martine Adjoda. Et c'est pas fini, l'équipe togolaise fille est en même temps qualifiée pour la phase continentale du tournoi des moins de 15 ans en 2024. Et c'est pas fini, il y a eu un chèque de 10.5 de dollars américains. Je me rappelle mes chiffres de mathématiques au collège. Les gagneuses du tournoi ont reçu un chèque de 10.5 dollars américains. Les gens regardent dans l'air. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que la victoire a toujours beaucoup de parents. Bonne chance aux épervières cadettes et qu'elles montrent la voie à leurs aînés, aussi bien les filles que les garçons. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut. Et Dieu le voudra bien.